Yeah, okay, let's go.
Entre les pages. Sur Radio G. Ce 12e numéro de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Je suis bien obligé de constater que même si les chemins qui mènent à la littérature sont bien balisés, on y a cet effet placé à l'entrée des panneaux strictement réservés aux auteurs, auteurs écrits en gras et soulignés. De nombreux individus, je dis bien individus, s'y aventurent sans justifier de quelconque diplôme ou certificat décerné par l'Académie, écrit avec un A majuscule, et souligné. Certains s'y engagent même par effraction. Quand cette effraction est consciente et n'a donc pour but que de semer le désordre à la façon des maraudeurs ou des flibustiers, ce n'est pas très grave, la police des belles-lettres verbalisera sans coup férir. Mais voilà, d'autres se retrouvent sur ces chemins sans l'avoir forcément voulu. Comme par inadvertance. Ils ne faisaient pas attention, ils avaient la tête ailleurs, sans doute préoccupés par la réforme des retraites à laquelle ils ne comprennent rien, ou bien n'ont pas vu le panneau, ou encore n'ont pas entendu les avertissements. C'est une effraction involontaire, mais une effraction quand même, et ce n'est tout de même pas tolérable. Ce n'est plus du désordre que cela crée, c'est du trouble. Comment s'y retrouve-t-on si ces individus ne sont pas passés par le crible de la critique officielle ? Avec un O majuscule en gras et souligné. Comment s'y retrouve-t-on ? Il faut se débrouiller tout seul, forger son propre jugement. Quelle angoisse ! Et si c'était mauvais, pas de bon goût, de quoi aurions-nous l'air ? Alain Charbonneau est de cela. Je crois qu'il était à mille lieues de s'imaginer auteur. Parce que son livre, Alexandra, dite Alex, n'est finalement que le fruit d'un hasard. Un hasard provoqué, certes, mais un hasard quand même. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, disait René Char. Lui, Alain Charbonneau, il y est allé vers son risque et on va en parler. Alors, Alain Charbonneau, auteur, mais pas que. Vous habitez Saint-Christophe-du-Bois. Cela se trouve où, Saint-Christophe-du-Bois ?
Bonjour d'abord et puis je vous remercie de m'avoir invité. Saint-Christophe-du-Bois se trouve à l'extrême sud du département du Maine-et-Loire, à côté au sud de Cholet, à la limite du département de la Vendée.
Donc oui, vous êtes vraiment au bout du bout du bout de l'Anjou, là. Hein. Et sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous êtes un homme, donc je ne pense pas que ça vous gêne beaucoup. Vous avez quel âge ?
J'ai 59 passé, je me dirige tranquillement vers les 60.
Écoutez, je vous rassure tout de suite, ça se soigne très 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 bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc, Alain Charbonneau, vous habitez Saint-Christophe-du-Bois, vous n'avez pas encore franchi le cap de la soixantaine, et vous faites quoi dans la vie ?
Je suis agriculteur donc à Saint-Christophe, on exploite une petite exploitation, 42 hectares, c'est une petite exploitation de type familial.
Exploitation, mais tout ça, c'est un peu pour moi du langage que je ne comprends pas, exploitation. Alors, exploitation, petite exploitation, 55 hectares, et on y fait quoi sur cette exploitation ?
Moi, je fais simplement de la production laitière. On élève 55-60 vaches laitières, et tous les fourrages qu'on produit servent à nourrir le cheptel. On ne fait rien d'autre. Pas de vente à l'extérieur, pas de blé, céréales, n'importe quoi, on ne fait rien d'autre.
Mais vous faites quand même un peu de culture pour nourrir vos vaches.
On fait de la culture, on produit du maïs, un peu de maïs et surtout du pâturage, trèfle, régras, tout ce qui est choses comme ça.
Ah, j'adore, moi quand on parle de régras, ça me fait tout de suite rêver. Ma mère travaillait dans une coopérative agricole. Et donc, voilà, agriculteurs. Alors moi, l'image que j'ai des agriculteurs, quand même, hein, c'est congénital. C'est-à-dire qu'on est agriculteur de père en fils. Donc, vous avez récupéré la ferme de vos parents.
Non, pas du tout. Moi, je suis originaire de département voisin, donc je suis un étranger. Je suis originaire de la Vendée, juste de l'autre côté de la frontière. On habite à 300 mètres de la frontière. Et mes parents étaient agriculteurs dans une commune de côté, donc à la Véry. Et quand j'avais 12 ans, le propriétaire voulait s'associer avec mon père, mes parents, et mes parents n'ont pas voulu. Mon père n'a pas voulu. Et donc, mes parents, après, sont partis comme simple salarié à Mortagne. Mon père était un peu l'homme de confiance de la patronne, puisque la patronne avait un bout de terrain, elle avait des moutons, des poules, et c'est mon père qui s'en occupait. Le dimanche matin, même avant la messe, il allait faire son petit tour aux moutons. Et donc, c'est comme ça. C'était mon adolescence.
Vous n'êtes pas héritier d'une ferme,
non.
Mais vous êtes quand même agriculteur. Donc, vous y êtes venu comment, à l'agriculture ?
C'est-à-dire que, comme mes parents, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la ferme. J'aimais ça. Donc, à l'adolescence, j'ai suivi des études agricoles. J'ai travaillé à l'étranger. Et après, quand j'avais 25 ans, je suis revenu, je me suis réinstallé comme agriculteur avec mon épouse.
Mais ça devait être quand même compliqué. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne me vois pas demain acheter un bout de ferme. J'ai déjà du mal à faire pousser un pied de tomate. Donc, acheter un bout de ferme, je ne vois pas trop ça. Ça devait être compliqué, non, au début ?
C'est-à-dire que dans les années 80 ou 85, 90, c'était compliqué parce qu'on était la première génération de personnes qui étaient non issues du milieu agricole qui s'installaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, mais il faut dire que dans les années 85-90, c'était relativement difficile. Difficile et il y avait peu de gens comme nous.
Et dans un territoire, alors on va faire un peu d'ethno-anthropologie, dans un territoire particulier, sud du Maine-et-Loire, nord des Deux-Sèvres et de la Vendée, un pays de terre accueillant. Donc vous êtes installé extrêmement facilement et on vous a tendu les bras quand vous avez
loué cette ferme. Non, 35 ans après, je suis toujours un étranger. Et je le dis même dans un autre roman, je suis un sang mêlé puisque les paysans me prennent pour un urbain et les urbains me prennent pour un paysan. Donc, je n'ai jamais trouvé juste milieu.
Juste milieu, mais vous continuez, enfin donc depuis les années 80, vous êtes dans l'élevage et dans l'agriculture. Ici, là, nous vous avons invité, enfin moi je vous ai invité parce que vous écrivez, vous êtes un agriculteur qui écrit. Alors, je me pose la question, quand est-ce qu'un agriculteur a le temps d'écrire ?
C'est le temps, faut prendre, quand on aime quelque chose, on prend le temps, on trouve toujours un peu de temps. Et souvent, maintenant j'ai une radio dans mon tracteur, mais avant, je n'avais pas de radio dans mon tracteur, simplement parce que j'aimais bien réfléchir. Donc, tout en travaillant avec le tracteur, je réfléchis. Et donc, le soir, je réfléchissais à ce que j'allais écrire et le soir, je l'écrivais. C'est aussi simple que ça. Mais bon, quand on aime un truc, mais moi, j'adore le cinéma. Je pense un petit peu différent des autres quand même.
Oui, vous venez des Deux-Sèvres, vous êtes installé dans le sud du Maine-et-Loire, vous n'êtes pas tout à fait comme les autres, ça c'est sûr. Et donc, le tracteur, c'est votre lieu de réflexion. Vous avez commencé à écrire quand, en fait ?
J'ai commencé à écrire dans les années 90, mais j'y réfléchissais. Non, j'y réfléchis depuis 2-3 jours.
Oui.
Je crois que je suis la phase finale d'une histoire familiale parce que ma grand-mère maternelle s'est mariée enceinte et le nord de la Vendée ou le sud du Maine-et-Loire, c'est une région plutôt très catholique. Et c'était très très mal vu.
C'est un euphémisme ça. Hein.
C'était très mal vu de ma grand-mère maternelle de se marier enceinte. Et ma maman, quand ma maman s'est mariée ou a fréquenté mon père, ma famille paternelle voyait ça d'un très mauvais œil et lui ont reproché d'être une fille facile. Et maman, quand j'étais ado, je m'en souviens, même jeune, j'avais 10-11 ans, elle me parlait souvent des filles enceintes. C'était un drame pour les filles enceintes dans ces années-là, dans les années 70, puisque c'était mal vu, c'était vraiment difficile et c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie de la religion qui ne voulait pas reconnaître ça ou qui c'était très mal vécu. Et donc, si j'écris, c'est parce que c'est toujours l'hypocrisie qui me gêne. La lâcheté des gens, l'hypocrisie et la vulgarité. C'est trois mots qui sont pour moi que je déteste.
Mais donc, vous écrivez, quand, si vous dites que vous... Alors, vous, je, c'est quelque chose, vous, vous en parlez, et là, vous dites, en fait, ces préoccupations-là, elles me traversent depuis longtemps. Vous avez, dans les années 90, on n'était pas encore informatisé, vous travailliez, vous écriviez déjà vos petits essais, vos esquisses, vous travailliez tout ça à la main ?
Ouais, à la main, ouais. Ouais. Après, j'ai commencé sur ordinateur, mais comme j'avais honte d'écrire...
Oui.
J'étais pendant au moins un an sans le dire à ma femme, parce que j'avais honte. Je voulais pas que ma sensibilité soit, ça se voit. Je voulais pas que ça se voit. Mm-hmm. Donc, je le disais pas.
Et puis, alors, ce qui m'intéresse, enfin, ici, hein, je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est l'écriture, le livre, le travail d'écrire. Je suis en train, là, je vous écoute, et je suis en train de vous imaginer devant, je ne sais pas, au supermarché ou à l'hypermarché du coin, en train de choisir votre premier ordinateur. C'était quoi, votre premier ordinateur ?
Oh, je ne m'en rappelle plus, c'était un petit truc marron. Je ne m'en rappelle plus. Sincèrement, je ne m'en rappelle plus.
Le temps a passé, vous avez commencé à formaliser. Alors, on va venir là sur un premier bout. Il y a le hasard, je le disais dans la présentation, il y a des concours de circonstances. Alors, peut-être pas si concours de circonstances que ça avec vous, mais quand même. Et votre première formalisation et votre premier rendu public de l'écrit, ça a été quoi ?
Ben, le premier chose que les gens ont reconnu, c'est le concours Jeune et Homo sous le regard des autres qui a été fait en 2008 ou 2009.
2009.
Et donc, il y avait 900 participants. J'avais, je peux raconter l'histoire. Hein. J'ai une demi-fille, l'aînée, elle a une de ses copines qui était lesbienne. Et cette jeune fille s'était jurée de jamais le dire à ses parents. Elle serait la risée des gens de sa commune. Et ils auraient trop honte d'elle. Et c'est une chose, cette phrase-là m'a marqué. Je me suis dit, si ça arrivait chez moi, une demi-fille, parce que j'ai deux filles et un garçon, si une demi-fille était lesbienne, je pourrais pas, ça me mettrait mal à l'aise qu'elle puisse penser ça. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont très vulgaires, qui se comportent mal avec les femmes, et c'est toujours quelque chose qui m'a gêné, parce que j'écris toutes mes héroïnes, c'est toujours des femmes, de toute façon, 9 fois sur 10. Mm-hmm. Et donc, il y a eu ce concours qui s'est présenté 15 jours ou 3 semaines après ce que ma fille m'a dit ça, et j'ai écrit j'ai réfléchi ma petite nouvelle dans mon tracteur, et le samedi soir, j'ai écrit ma petite nouvelle. Il fallait écrire maximum 2 pages et demie. J'ai écrit mes 2 pages et demie. Quelques jours après, c'était organisé par Canal+ et le ministère de la Santé. Et quelques jours après, mettons 8-10 jours après, j'ai eu un premier mail. C'était par mail, il fallait l'envoyer par mail, comme quoi qu'il y avait 900 participants et je faisais partie des 300 gagnants. Des 300 sélectionnés. Et peut-être 15 jours encore après, de 300, on était passé à 100. Et comme j'avais pas le droit, normalement, j'avais pas le droit de concourir parce que c'était réservé aux moins de 30 ans. Donc j'avais 30 ans depuis belle lurette. J'avais inscrit ma fille comme si c'était ma fille qui avait écrit pour sa copine.
Usurpation d'identité.
Ouais, mais c'est pas grave parce que là, j'ai pas fait une fausse déclaration de patrimoine. Donc. Moi, j'estime que c'était pas méchant parce que j'aurais pas gagné ou j'ai pas fait partie des 100, personne n'aurait jamais su. Puis personne, c'était comme ça. Et donc, quand ma fille est arrivée aux vacances de Noël, elle étudiait sur Toulouse. Je lui ai dit, tu sais, j'ai répondu à un concours, on fait partie des 100 premiers pour l'instant. Bon, je sais pas où qu'on était, si c'était 100 ou 30 premiers. Et donc là, je lui ai fait voir la nouvelle que je lui ai écrite. Je lui ai dit, je fais comme si que tu avais écrit ça pour ta copine. Un point, c'est tout. Et arrivé la première quinzaine de janvier, là, on était dans les 30 premiers, c'est sûr. Et il y a eu un écrit, tout au moins les 30 premiers avaient gagné au moins, qui serait leur écrit, serait diffusé dans une petite brochure. Et fin janvier, Canal+ m'appelle, me dit, votre fille a répondu à un concours, il faut absolument... aller inviter à Paris, il faut absolument qu'elle vienne, c'est super, super important, tout ça. Et donc, j'ai retéléphoné à ma fille, je lui ai dit, là, les affaires commencent à se corser, puisque Canal+, le ministère de la Santé, t'invite à Paris. Et le 9 février 2009, ça doit être, ma fille est allée donc à Paris, et sur les 8 derniers jours, Canal+, mettait absolument la pression, il faut absolument qu'elle vienne, on va lui payer son billet d'avion, parce que comme elle était Toulouse-Paris, et Daphné est allée à cette réception, et le jury a annoncé quatre gagnants, les quatre premiers gagnants, et sur le cinquième, ils ont dit, le jury était touché par un cinquième texte, et là, ils ont dit, on appelle Daphné Charbonneau. Alors là, Daphné m'appelle, elle était complètement surprise, parce qu'en plus, j'avais oublié comment s'appelait le texte, il s'appelait Renaissance, mais quand je l'ai envoyé sur mon ordinateur, il n'apparaissait plus le texte, le titre n'apparaissait plus. Et donc elle m'appelle, elle me dit on a gagné. Je dis, tu rigoles, c'est pas possible. Et si, je te jure, on a gagné. Et les gagnants, leur texte était réalisé pour un court métrage. Voilà.
Donc je disais en introduction que vous êtes entré en littérature par effraction. Là, c'est plus une effraction. Là, vous en avez commis plusieurs. Vous participez à un concours de scénario. Votre synopsis, votre texte est retenu. Et ce scénario qui a donc été sélectionné dans les cinq premiers, il a été réalisé ?
Il a été réalisé par la réalisatrice Céline Sciamma. Donc, elle a fait un court-métrage de 6 minutes quelque chose, qui est toujours visible sur Internet. Si vous tapez Pauline Céline Sciamma, concours jeune et homo sur le regard des autres, eh bien, c'est le scénario, c'est moins, c'est la réalisation. Donc, voilà.
Et de cette réalisation, comment vous la prenez, cette réalisation ?
Bah, j'étais sur le moment, j'étais super content. J'ai passé une semaine, mais alors super content. Entre le moment que Canal+ m'a dit que c'était important de venir et le fait qu'on gagne, là, j'ai dit... D'abord, je me suis dit, on est en finale, c'est déjà pas mal. Et après, j'étais super, super content. Et dans la minute qui a suivi, Daphné, ma fille Daphné, a dit qu'on avait gagné. Dans la minute, je me suis dit, j'écris toute l'histoire.
Mais quand je vous disais, qu'est-ce que vous en pensiez ? Le court-métrage, vous l'avez vu ?
Je l'ai vu, ouais. Mais le problème, c'est que le court-métrage ne ressemble pas du tout à ce que j'avais écrit. Ils ont gardé l'idée générale, mais ils n'avaient pas écrit, ils n'ont pas raconté, tourné ce que j'avais écrit. Donc ça, j'étais vexé. Donc c'est pour ça aussi que c'est ce qui m'a donné l'envie vraiment d'écrire toute l'histoire, tout le passé de mon héroïne.
Effectivement, pour avoir élu vos participations au concours et pour avoir vu effectivement le film, donc ce court-métrage dans lequel participent Anaïs de Moustier et Adèle Haenel, pour l'avoir vu, effectivement, c'est pas qu'il était, il est pas éloigné, il est assez fidèle, mais il reste quand même, puisque on est que dans une voix off, enfin que dans une voix qui parle, c'est un peu, ça réduit un peu effectivement la proposition que vous avez faite. On va continuer cet entretien, mais on va faire une première pause musicale avec un groupe de pas très loin de là où vous habitez, puisque c'est un groupe de Cholet. Ce groupe, c'est la jambe de Frida et il chante Arfan.
Si nos étreintes devinent glace et lueur divine, évoquerons-nous les années, l'orme au cachet de l'enfance, trinquerons-nous à la beauté, au désir de renaissance. Si nos regards s'alarment face aux grandeurs des cimes, dérideront-nous les clichés, veste grise, robe blanche, louerons-nous votre lucidité, à m'éviter l'avalanche. Souris-moi le long des orangerais, sous l'orgueil pousse le lilas. Crois-tu la mort te tient de près, si tu l'accueilles, ne m'oublie pas. Si nos éclats saisissent bras et pudeur de mythe, confesserons-nous la volupté, les poches pleines d'ignorance, déguiserons-nous d'un baiser l'opinion qui nous encense. Si nos saisons présagent l'arfan au cœur sublime, irons-nous récolter l'aurore et les roseaux qui l'accompagnent. Je te remercierai encore d'avoir fleuri ma campagne. Souris-moi le long des orangerais, la mort te tient de près, si tu l'accueilles, ne m'oublie pas. Souris-moi le long des orangerais, sous l'orgueil poussent les camélias. Oh, si la mort te tient de près, tes larmes aux yeux encore une fois.
Radio G 101.5, aujourd'hui nous sommes avec Alain Charbonneau et nous parlons de son livre Alexa, dite Alex, publié chez Écriturial. Nous venons d'entendre Arfan par le groupe La Jambe de Frida. Moi je crois et je suis intimement convaincu que les groupes devraient parfois porter plus d'attention au nom qu'ils se choisissent. Mais revenons à Alain Charbonneau. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons un peu découvert qui est Alain Charbonneau, un agriculteur qui habite Saint-Christophe-du-Bois et qui s'est lancé dans l'écriture, on va dire en tout cas qui a concrétisé son projet en ayant participé à un concours de scénario Jeunes et homo sous le regard des autres et en ayant remporté, sous le nom de sa fille d'ailleurs, le concours. Il a vu d'ailleurs son scénario réalisé par Céline Sciamma. Alexandra, dite Alex, ça parle de quoi? Ça raconte quoi?
Donc, Alexandra, dite Alex, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est insultée. C'est une jeune fille qui est bien intégrée dans sa commune et c'est pour ça que j'ai écrit tout le texte que dans cet esprit-là. Je voulais rendre aussi hommage aux bénévolats, aux gens qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps, puisque c'est super important, ça permet une cohésion sociale et tout ça. Et donc, Alexandra, où Alex est bien intégrée dans sa commune, c'est un peu la star de la commune, et elle se fait insulter, et à chaque fois qu'il y a des insultes, c'est toujours par surprise, et on n'a pas le temps de réagir, et donc elle est complètement dépitée, elle est affolée, dépitée, et c'est dramatique pour elle, elle s'enfuit de chez elle et après elle va se reconstruire pour revenir affronter ceux qui l'ont insultée.
Résumé comme vous le faites, c'est d'abord, vous allez rapidement, c'est l'évolution. Moi, j'ai lu ce livre comme l'évolution d'une jeune fille qui découvre sa sexualité et qui va être confrontée au regard des autres. Et qui va tenter de trouver les solutions pour vivre pleinement ce qu'elle est.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai oublié. C'est-à-dire qu'elle se découvre lesbienne. Et d'abord, elle est d'abord surprise parce que c'est le genre de mots qu'elle n'a jamais entendu parler avant. Et elle est surprise et elle ne sait pas comment aborder ce problème-là, ce sujet-là avec ses parents, sa famille. Et elle le cache, elle ment comme elle respire parce qu'elle ne veut pas se l'admettre à elle-même.
Non, elle ne ment pas comme elle respire, elle trouve les positions, oui, les postures qu'il faut pour être ce qu'elle est.
Oui, si on veut.
Là, vous avez, pour écrire, pris la place d'une fille. Vous êtes mis à la place d'une jeune fille. C'est comment quand on décide de prendre un autre genre et de raisonner ou de réfléchir à la place de quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire que j'ai beaucoup observé, c'est une histoire d'amour, et j'ai observé une jeune fille ou des jeunes, et je me suis mis à leur place, et je me suis aussi beaucoup renseigné sur plein de choses, plein de sujets, la musique, tout un tas d'éléments pour construire mes personnages.
Et est-ce que vous n'avez pas... Parce que certes, il y a eu ce scénario en premier... mais vous pouviez en faire ce que vous voulez, enfin, vous étiez contraint à rien du tout. Donc est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas posé la question, ou est-ce que vous l'êtes posé, et ça serait intéressant de le savoir, d'écrire ce texte, non pas à la place d'Alexandra, mais plutôt soit à la place du père d'Alexandra, c'est-à-dire raconter la même histoire à la place du père d'Alexandra?
Non, parce que je vais vous dire... Maintenant, j'y repense. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Alexandra, c'est comme si quelqu'un m'avait touché et m'avait transmis toute son émotion et m'avait dit « Maintenant, tu te débrouilles. Je t'ai transmis tout ce que je ressens. Et maintenant, toi, tu es simplement le messager. Tu dois... t'es capable de l'emmener jusqu'au bout.
Oh là là,
j'ai ressenti.
On est bien dans le sud du Maine-et-Loire. Là, il y a des puissances immanentes.
Non, c'est comme si moi, je ressens des choses... Moi, je suis éleveur, donc je ressens des choses. Quand je vois un animal malade, des fois, sans le voir, je ressens quelque chose. Il se passe un fluide, il y a quelque chose qui se passe. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et j'ai, comme si quelqu'un m'avait touché, il m'avait dit, maintenant tu te débrouilles. Moi, j'ai fait, j'y arrive pas tout seul, donc j'ai besoin de toi.
Trois pages, les trois pages se sont transformées en presque une petite centaine de pages, hein, quand même. Est-ce que ça a été compliqué d'aller au bout de votre projet?
Ouais, c'est toujours compliqué parce que c'était vraiment le premier, c'était le deuxième en vérité, parce que je n'avais écrit un autre. Mais c'est toujours compliqué. Et j'ai passé du temps, énormément de temps à me renseigner à droite, à gauche. C'est pas mon métier. Donc c'est d'autant plus difficile. Et puis, j'ai pas fait d'études littéraires ni d'études cinématographiques. Donc, je suis dans un domaine totalement inconnu. Donc, effectivement, c'est dur. Mais j'avais quelque chose, un message à faire passer. Et il fallait que je le fasse. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi, je fonce. J'avais envie de le faire et puis je me suis dit j'arrêterai que lorsque ça sera, je mettrai le point final.
Pour vous, ce livre, en chronologie de publication, ce deuxième livre, en réalité ce premier, on viendra sur l'autre, il fait presque une centaine de pages. Est-ce que dans votre tête, il était plus long, plus court? Est-ce que vous avez été surpris de voir qu'il y en avait une centaine de pages?
Oui, sûrement surpris, oui, parce que je ne pensais pas, quand on écrit, qu'on pouvait en mettre autant. Et je ne voulais pas qu'il soit trop long pour garder une certaine fluidité. Je ne voulais pas trop me perdre dans des détails. Je ne sais pas s'il est bien écrit. Moi, je ne sais pas. Mais c'est ce que je voulais raconter, parce que moi, je le vois en tant que film. En vérité, j'ai écrit les deux versions. J'ai écrit le scénario et j'ai écrit le livre. Parce que pour moi, je l'ai dans ma tête, donc je sais où je veux emmener mes personnages. Donc, moi, je pense que c'est bien.
Moi, je l'ai lu, votre livre. Donc, si je vous ai invité, c'est que j'ai été interpellé par le sujet. J'ai éprouvé quelque chose en le lisant. J'ai éprouvé quelque chose. J'ai senti à certains moments qu'il se passait quelque chose. Et quand j'ai lu ce livre, quand j'ai lu l'histoire d'Alexandra, quand j'ai lu tous ses déboires, j'ai été touché à certains moments par une forme de, comment dire, de peut-être de proximité ou de réalisme. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé comme réalisme, peut-être qu'on est extrêmement loin de la réalité. Peut-être que le parcours d'une jeune fille ou d'un jeune homme homosexuel, c'est pas celui-là, ou peut-être que c'est celui-là, mais pas comme ça. Donc, moi, là-dessus, je suis pas dans la recherche de réalité. Je suis juste dans la lecture. Moi, je suis un lecteur, c'est tout. Et j'étais curieux de savoir qui avait écrit ça. Ma curiosité est largement dépassée, puisque je ne m'attendais pas à trouver un homme de 60 ans qui s'est penché sur cette question-là. Votre fille, qui est là, alors qui est, il y a une dédicace pour elle hein, dans le livre, mais qui est quand même celle qui a signé le scénario, elle pense quoi de toute cette aventure ?
Elle était contente. Mais elle était contente. Au début, quand je l'ai... Daphné faisait des études culturelles ou de dessin, d'art. Donc, quand j'ai écrit le scénario, je lui ai dit, tu prends la relève, tu vas à Paris, tout ça. Parce que je me suis dit, dans le fond de moi-même, si le cinéma l'intéresse, elle aura déjà une porte d'entrée. Finalement, le cinéma ne l'intéresse pas. Mais je me suis dit, tu arrives déjà avec un truc, même si, parce qu'elle, elle aurait été capable d'écrire ce que j'ai écrit. Les deux pages et demie, elle avait fait des études de français, littéraire, beaucoup mieux que moi. Elle ne fait pas de faute. Donc, elle était capable de le faire. Donc, je me suis dit, faut tenter sa chance, la chance. Il faut aller la titiller, sinon, elle ne va pas venir chez vous comme ça. Donc, elle prenait le relais et personne n'était au courant. Et puis, basta, l'affaire marchait.
Donc, vous êtes un multi-récidiviste, c'est bien ce que je dis.
Non. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Si on veut gagner quelque part, il faut y aller franco. Sinon, vous ne gagnerez jamais. Hein.
Je suis toujours en... Je rencontre aujourd'hui Alain Charbonneau, qui a écrit un livre qui s'appelle Alexandra dit Alex, qui est publié chez Écriturial. Mais il n'a pas publié que ça. Alain Charbonneau, il a publié, en fait, par ordre d'édition, là, on va dire, il a publié un livre qui s'appelle Prudence. Prudence, ça raconte quoi ?
Prudence, c'est... On est Donc, on a dit qu'on était agriculteur et il y a 6 ans, on a eu un accident d'élevage. On a perdu la moitié de notre cheptel, 26 vaches sur 49 qui avaient dans le lot ce jour-là. Suite à une malfaçon, on avait fait faire un silo de céréales en plastique. Le silo était mal fait. Quand la personne, l'entrepreneur qui a fait le silo chez nous, quand il est parti de chez nous, le silo était déjà défectueux. Et le dimanche, 8 jours après, le silo il est éclaté en surpression. Le silo a éclaté. Et nos vaches ont été affolées, on ne le savait pas à ce moment-là, par des animaux sauvages. Elles ont renversé un lourd plot de béton. Elles se sont jetées dans le silo. Elles ont mangé où c'était cassé. Elles n'ont rien cassé d'autre. On en a perdu donc 26 sur 49. Et depuis, l'entrepreneur n'a pas voulu reconnaître ses torts, malgré toutes les preuves de malfaçon. Il n'a pas voulu reconnaître ses torts. Et donc, on est parti au tribunal. Et dès le début, j'ai vu que l'assurance, la mutuelle d'assurance, ne voulait pas payer, ou le moins possible. Et prudence, nous, dans le même temps, on est le maître de stage. On prend énormément de stagiaires, pas énormément, mais un tout le temps. On a toujours un stagiaire avec nous. Il y a des gens qui nous font confiance. Et moi, en tant que maître de stage, je dois faire attention à la sécurité. Et là, on s'aperçoit que le gars a respecté aucune norme de sécurité, une machine qui n'était pas aux normes, surtension de la bâche. Et en plus, le gars était au téléphone. Il était prouvé que le gars était au téléphone. Je l'avais remarqué, c'est pour ça que qu'on n'était pas d'accord et il a passé. Donc on ne laisse jamais un tracteur tourner avec une machine en étant éloigné de 60-70 mètres tout en étant au téléphone. Ça, c'est inadmissible. Et le reproche que je fais, c'est un reproche par rapport à la sécurité. Nous, en tant que patron, petit patron ou maître de stage, on demande énormément de normes de sécurité. Et là, visiblement, la personne n'a rien respecté et on continue de la soutenir. Prudence, donc c'est le nom de ma stagiaire, mais au travers ce livre, je raconte trois histoires. Je raconte l'évolution au travers le regard du père François, l'évolution du monde agricole avec la création des mutuelles, des coopératives qui sont devenues très grosses et qui sont ingérables. Et si je raconte la chose la plus importante qu'il y a actuellement, c'est le réchauffement climatique. Donc je fais voyager ma petite Prudence au travers. Elle voyage dans le monde et elle parle du réchauffement climatique parce que c'est la chose c'est un drame. C'est un drame qui nous attend. Là, chez nous. Donc, à côté de Cholet, on a actuellement, avant le 15 février, on a déjà des pruniers qui sont en fleurs. On a des jonquilles qui ont fleuri avec un mois d'avance. Dans le jardin, on a des choux qui sont envahis de chenilles en plein mois de février. C'est inadmissible. Et moi, je le constate parce que depuis 35 ans que je suis agriculteur, je note plein de petites choses. Et ça, on s'en va vers une catastrophe. Et là, c'est l'hypocrisie du monde actuel puisque... Moi, je fais plein de choses. Je trie les bâches, les ficelles. Je fais attention à plein de choses pour essayer de polluer le moins possible. Nous, en tant que consommateurs, on fait produire nos produits au sud-est asiatique. Ça revient par cargo et dans des boxes. Et on utilise le plastique, les jouets, tout ça. Et après, ça retourne se faire dans le sud-est asiatique dépollué. Et pendant ce temps-là, on demande aux consommateurs de faire attention. Là, je crois que c'est se moquer un peu des gens. C'est une hypocrisie totale puisque ces gros cargos, ils consomment du fioul lourd qui est très polluant. Et si vous, en tant que consommateur, vous avez une voiture qui est un peu âgée, on va vous faire une remarque, vous dire votre voiture elle pollue alors que pour faire du business, on pollue énormément. Et ça, on ne se rend pas compte d'où on va. C'est un drame qui nous attend. Moi, j'ai vu l'évolution sur 40 ans, 30 à 40 ans. Depuis 3 ans, on n'a plus de joli l'hiver. Et on a des oiseaux chez nous qu'on appelle ça, je ne sais pas s'il y en a ici, des hérons garde-bof. Et il y a 5 ans ou 10 ans, il n'y en avait pas. Ça, c'est sûr. Ils sont là depuis 5 ans. C'est un drame qui nous attend.
Eh bien, moi, j'étais parti pour une petite interview sur un auteur de livres agriculteur et je suis devant un militant citoyen de l'écologie. Et oh là là, va falloir que je rétropédale pour pouvoir retrouver le cours de l'entretien. Mais c'est tout à fait... En tout cas, moi, ça me rassure un peu que des gens qui sont effectivement au cœur de la nature, même si c'est une image un peu carte postale que j'utilise, qui soient, tels que vous, soucieux de la préservation de la nature. Dites-moi si je me trompe, vous faites de l'acupuncture sur les vaches ?
Oui, donc toujours dans le but de réduire la consommation d'antibiotiques. Moi, je me suis formé il y a 2 ou 3 ans à l'acupuncture et c'est un moyen de soin que j'utilise souvent et qui nous a permis de réduire les antibiotiques de 80%. Donc c'est ça qui m'agace dans notre société, c'est que nous, les agriculteurs, malgré l'agribashing, on fait énormément d'efforts. Et c'est toujours, tout est toujours notre faute, alors qu'on fait, c'est pas normal, il faut toujours qu'on trouve un coupable. Et ça, c'est pas juste.
Eh bien, je vais vous remercier, Alain Charbonneau, de nous avoir rendu visite et de la richesse de cet entretien. J'imaginais pas qu'on ouvrirait autant de portes. Nous allons faire une nouvelle pause musicale, cette fois avec les Ambassadeurs d'Angers. Je veux parler de l'ensemble Amaryllis, qui interprète Medea in Atene de Giovanni Antonio Giannettini. Eh bien oui, vous êtes bien sur Radio G, là je prends ma voix France Musique. C'était l'ensemble Amaryllis et la superbe voix de Stéphanie Doustrac. C'est notre manière à nous d'annoncer l'étonnante soirée Mozart Le Grand Jeu organisée par votre radio préférée le samedi 22 février de 20h à 22h qui verra s'affronter en direct 4 youtubeurs spécialistes de musique classique et qui sera harmonisée par Michael Masclay, animateur de l'émission Pause Classique. Mais c'est l'heure de la chronique de Julien Védrenne. Quoi ? Malgré le Brexit, les Anglais sont déjà arrivés à Ingrande ?
Lors d'une halte à la route du sel, j'ai croisé le chemin d'un auteur anglais de western. Rencontre autant stupéfiante que surprenante avec Peter Way, l'homme qui dégaine ses intrigues plus vite que son ombre.
J'aime aussi tous les pour quelques dollars de plus et les pour une poignée de dollars. J'aime tous les western spaghetti. Mais le bon, la brute et le truand, c'est probablement mon préféré. J'écris le western. J'écris des histoires depuis longtemps. Des histoires courtes, des histoires longues. Et je n'avais jamais essayé de publier. Je lis beaucoup aussi. Et un jour, j'ai lu un western. Et j'ai pensé, ce n'est pas génial. Je pense que je pourrais faire mieux. J'ai grandi avec les westerns. J'en regardais beaucoup. Ma série préférée dans les années 50, c'était Champion the Wonder Horse. J'ai donc toujours regardé beaucoup de westerns. Et je suis souvent allé aux États-Unis. Alors j'ai pensé que je pouvais moi aussi écrire un western. Le héros devait être irréprochable. Pas de casier judiciaire, quelqu'un de très bien sous toutes les coutures. Il ne devait pas y avoir de sexe. Toutes les références sexuelles devaient s'arrêter à la porte de la chambre à coucher. En suivant ses instructions, j'ai donc réécrit l'histoire et je l'ai envoyée, mais sans recevoir tout de suite de réponse. Il faut être précis avec des choses comme les lieux et les armes en particulier, les munitions et aussi le langage, mais pas vraiment. Mais au final, je dirais que les westerns écrits pour le marché anglais ne sont pas destinés aux Américains. Oui, il y a toujours des personnages qui sont moralement ambigus. Mais l'histoire principale, c'est toujours celle du héros qui triomphe contre les méchants. C'est toujours le thème central du western. Au final, il y a très peu de scénarios dans le western. C'est souvent la vengeance. La vengeance, c'est très commun. Venger la mort d'un parent, ou d'un père, ou d'une femme, ou alors prendre sa revanche après s'être fait détruire ses terres ou sa propriété, c'est toujours quelque chose du genre.
Désolé auditeur, Entre les pages sombre dans le plus profond cosmopolitisme et s'adonne à la vile littérature, le western. Vous retrouverez de nombreux titres de Peter May aux éditions du Rouergue. Avec Inès, nous allons passer allègrement du Far West spaghetti à un monde quasi kafkaïen.
Les mâles et les femelles, elles ne voyaient pas de façon plus juste de dire les choses, veillaient les uns sur les autres à la façon d'une famille de chimpanzés ou de gorilles des montagnes. La femelle la plus âgée prenait soin du mâle dominant, passait une lingette humide sur les jambes et le ventre rebondi afin de le rafraîchir. Lui caressait le bras en signe de soumission, rabrouait son remuant petit-fils. Cela, dans la bouillie verbale entendue plus tôt, et qui lui rappelait le langage arriéré utilisé par le chauffeur du taxi. Quant au petit de la jeune femelle, il dormait, agrippé au dos de sa mère, presque écrasé contre le siège. Lorsque tout « ça » ne dormait pas, ou ne se cherchait pas des parasites, « ça » mangeait. De plus en plus mal, ou plutôt de plus en plus bestialement. C'est du moins ce que Margot écrivit dans son carnet avant de biffer l'adverbe. Elle conserva néanmoins le pronom démonstratif. Il ne s'agissait pas de degré dans l'éducation, mais de l'absence de celle-ci. De la régression d'une famille entière. Des freaks dignes du cirque Tetralini. Dire que ces phénomènes de foire faisaient officiellement partie de l'Europe. L'Europe du Sud, certes, mais l'Europe quand même. L'essence ne lui jetait pas un vilain tour. Ou alors, c'était la fatigue, conséquence de longues nuits consacrées au travail. Une sorte d'épuisement qui perturbait son rapport à la réalité. Remodelant celle-ci à partir de ses phobies? Peut-être. Bon sang! Même les cauchemars avaient une fin. Le dormeur se réveillait en sursaut, le rythme cardiaque perturbé, partagé entre l'effroi suscité par le rêve et la satisfaction du retour à la normalité. En l'occurrence, l'éveil ne survenait pas. C'était bien en ce lieu, en ce moment précis, dans un TGV portugais, qu'elle distinguait de longues poils noirs sur les bras et les jambes de ces êtres atrocement humains. Était-elle la seule à prendre conscience de la mutation en cours ? Les autres passagers continuaient à vivre, à converser, à feuilleter leur journal, sans chuchoter ni se pousser du coude. Ne remarquait-il pas les canines plus longues, plus effilées, qu'elle entrevoyait lorsqu'une patte enfournait une nouvelle banane dans l'ignoble gueule ? Ses connaissances ne lui permettaient pas de mettre des mots sur les gestes, les grognements, les mimiques. Comment affirmer encore que toutes les civilisations se valaient lorsque l'on était confronté à l'absence visible de culture, d'instruction, de sagesse ? Perle tenta une dernière fois de se plonger dans le travail. Elle ouvrit au hasard un ouvrage portant sur les façons dont le pouvoir colonial percevait les populations algériennes, avec l'intention de relire certains témoignages. Les phrases, les paragraphes se confondaient, formant un ensemble abscon. À la place de la page, il n'y avait plus qu'une tache noirâtre, une bavure énigmatique. Allait-elle perdre pied, perdre la tête, à cause d'une guenon et de sa progéniture ? Heureusement, le train approchait de la grande ville universitaire. Bientôt, elle recouvrerait la raison, la maîtrise du monde. Plus que quelques minutes et le grand requin blanc reprendrait sa place au sommet de la pyramide académique. La famille ne se préparait pas à descendre, dommage. Elle eût voulu la désigner à son collègue, lui montrer que ça existait. La porte s'ouvrit dans une nouvelle bouffe de chaleur, un vent aussi brûlant que celui qui soufflait tout à l'heure sur Lisbonne. L'air pesait comme un fruit blette. Comment la pensée s'épanouissait-elle dans un tel contexte ? Allait-elle jeter quelques imprécations contre les Portugais dans une brume étrange envahit son esprit, qui l'empêcha de trouver le mot idoine. Pearl descendit les marches avec difficulté. Ses membres ne lui obéissaient moins bien. Elle ne parvenait plus à se tenir droite, à placer un pas devant l'autre. Pourquoi diable son buste se penchait-il de la sorte ? Elle n'allait tout de même pas finir à quatre pattes. De terribles démangeaisons affectaient aisselle, bras et jambes, tandis qu'une souffrance soudaine lui vrillait les tympans. Lorsqu'elle parvint à relever la tête au prix d'un effort insensé, elle lut de l'étonnement dans le regard du premier quidam croisé sur le quai, et de la crainte, voire de la peur, dans les yeux du second. Ensuite, ce fut le collègue qui s'approcha avec réticence. Elle eut encore le temps de se demander comment on saluait avant de perdre l'usage de la parole.
Merci Inès. Je vous l'avais annoncé, univers kafkaïen, peut-être même lovecraftien. C'était un extrait de la nouvelle de Fabrice Schurmans, La réfutation de Darwin, publiée dans le numéro 55 de la revue Arfan. Et c'est Benjamin Béliard qui prend la suite avec son titre « Lui ».
N'était pas si tard, écoutez-moi, la lune pointait à peine. On fumait des pétards, croyez-moi, il me disait je t'aime. Sachant pertinemment que je n'étais pas pour lui, regardant les passants, il comparait sa vie. Que de lui. Il n'avait envie que de lui. Maîtrisant l'intérieur, ignorant l'extérieur. Otis, il était né, espire ou meilleur. Qu'il n'est que lui, c'est à nous de le croire. Il n'avait
n'était pas si tard, la lune pointait à peine. On fumait des pétards, il me disait je t'aime. Par ces soirées d'automne, le monotone et mes journées aussi.
Vous êtes bien entre les pages et c'est sur Radio G 101.5 ou sur le site www.radio-g.fr. Vous venez d'entendre Benjamin Béliard, c'était bien. Mais maintenant, vous allez entendre Inès qui va nous faire l'inventaire des événements à venir, et c'est encore mieux.
Et oui, et donc je me précipite de me dépêcher très très vite pour vous dire à tous les auditeurs, et plus particulièrement à ceux du Saumurois, que nous venons leur rendre visite très bientôt. Nous enregistrons le prochain épisode de Entre les pages en public, le samedi 22 février, à la bibliothèque de Saumur. Et nous aurons des invités. Tout d'abord, le responsable de Imaginaire, le réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire, les éditions Banquise et Comète et la poétesse Albane Gelé. Le 21, 22, 23 février, c'est le salon Le Livre et ses métiers d'art de Montreuil-Belay avec cette belle intention Voyage et poésie. Cette édition est dédiée à Tony Hillerman et à l'affiche calligraphe, relieur, typographe et beaucoup d'autres métiers du livre encore. Le programme complet est à retrouver sur le site www.anima-libri.fr. Les 29 février et le 1er mars, rendez-vous au Festival BD Bulle en Loire à Chalonne. Les 7 et 8 mars, au Grenier Saint-Jean à Angers, c'est le printemps du livre, avec le thème cette année, le voyage immobile. C'est organisé par l'association Renaissance de la Doutre à Angers. Et puis, du 7 au 23 mars, ce sera le printemps des poètes, avec cette année comme thème le courage. Il faut noter le travail iconographique remarquable réalisé par le printemps des poètes. Ils ont toujours des affiches magnifiques. L'an dernier, Enigdal était à l'honneur, cette année c'est au tour de Pierre Soulages. Enfin, je vous rappelle que Entre les pages a lieu pendant la semaine spéciale dédiée aux radios associatives. Samedi soir, ce sera la nuit de l'ASMR.
Ce sera la nuit de l'ASMR.
Proposée par l'émission Tendance me plaire. Il va y avoir du grattage de micro, du pressage d'éponge, des pianotages d'ongles manucurés. Et puis, dimanche 16 février, vous pourrez venir assister à l'émission Ma chansonnette à 10h et à l'émission générique à 18h. Je vous ai lu un extrait de la nouvelle « La réfutation de Darwin » de Fabrice Schurman, publié dans le numéro 55 de la revue Arfang. Et nous vous avons fait entendre Arfang du groupe Scholté, « La jambe de Frida », on ne rit pas, attention. Extrait de leur album « Arfang »,« Médéa en Athénée » de Giovanni Antonio Gianetti par l'ensemble Amaryllis et la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. Et enfin « Lui » de Benjamin Béliard, extrait de son unique album « Enfin, bref ». Et le générique de l'émission, eh bien, comme toujours, comme toutes les semaines, c'est évidemment Thylacine.
Ce soir, ayons une pensée toute particulière pour Georges Steiner, disparu le 3 février dernier. Il était linguiste, critique littéraire d'une culture humaniste à l'ancienne, lisant le latin et le grec, ayant entre autres développé une théorie sur la nécessité de l'apprentissage par cœur, ça peut surprendre. Voici ce qu'il écrivait dans un petit texte intitulé « Ceux qui brûlent les livres ». Le temps que j'atteigne le livre... Voilà, c'est chose faite. Je trouve le...
On va faire de l'ASMR en attendant.
Oui, merci. Oh. Merci.
Luc est en train de chercher la page voilà. Du livre.
Donc, c'est l'extrait « Ceux qui brûlent les livres » de Georges Steiner. « Ceux qui brûlent les livres, qui bannissent et tuent les poètes, savent exactement ce qu'ils font. Le pouvoir indéterminé des livres est incalculable. Il est indéterminé précisément parce que le même livre, la même page, peut avoir des effets totalement disparates sur ses lecteurs. Il peut exalter ou avilir, séduire ou rebuter, appeler à la vertu ou à la barbarie, magnifier la sensibilité ou la banaliser. De façon on ne peut plus déconcertante, il peut faire les deux, presque en même temps, dans un élan de réponse si complexe, si rapide, dans son alternance et si hybride, qu'aucune herméneutique, aucune psychologie ne peut prédire ni ne peut calculer sa force. À différents moments de la vie du lecteur, un livre suscitera des réflexes entièrement différents. Dans l'expérience humaine, il n'est pas de phénoménologie plus complexe que celle des rencontres entre texte et perception, ou, comme le nota Dante, entre la forme du langage qui dépasse notre entendement et les ordres de compréhension au regard desquels notre langage est insuffisant. Voilà donc ce qu'écrivait George Steiner, un des grands intellectuels qui vient de nous quitter. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Merci Alain Charbonneau d'être monté jusqu'à la capitale. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI qui sera suivi par L'Oreille Curieuse, l'émission animée par Anne-Lie, à qui nous souhaitons un bon anniversaire. Inès Amat et moi-même vous souhaitons une excellente soirée. Et maintenant, générique. Let's go.